Nous poursuivons cette émission en accueillant, comme prévu, Jean-Jacques Schulz, sauf qu'en l'occurrence, ce n'est pas l'exacte vérité, puisque c'est vous, Jean-Jacques Schulz, qui nous accueillez chez vous. L'adresse, on serait tenté de dire qu'elle figure dans ce nouveau livre, Entrée des fantômes, mais on n'est pas sûr que ce soit non plus l'exacte vérité, allons savoir. Cette rue où nous sommes aujourd'hui, que nous devinons, c'est peut-être pas la rue que vous indiquez, c'est peut-être celle d'à côté, c'est peut-être le numéro d'en face. Mais donner votre adresse dans un livre, c'est quoi ? C'est tenter une expérience, Jean-Jacques Schulz ?
Non, c'était donner aussi l'adresse du fantôme de Talleyrand. Et je voulais bien faire un effet de réalisme, parce qu'effectivement, il est à côté de nous. D'ailleurs, il est juste là, de l'autre côté du mur, puisque au 48... Et il y a eu l'hôtel de Galifet, où Talleyrand a habité, le diable boiteux. Et je voulais, c'est plus son adresse à lui, ou à côté de son adresse à lui, que c'est celle-là que je voulais indiquer plutôt que la mienne.
Alors cette adresse, on la trouve dans Entrée des fantômes, qui vient d'être publiée aux éditions Gallimard, dans la collection L'Infini, dirigée par Philippe Solers. C'est vrai que la véritable adresse de Jean-Jacques Schulz, c'est peut-être pas celle-là, c'est peut-être celle de Charles, finalement, le narrateur de ce livre, écrivain lui-même. On peut dire que c'est peut-être pas tout à fait vous, effectivement, Jean-Jacques Schulz, et peut-être que cette adresse, oui, est sur le trottoir d'en face. Mais chez vous, pour vous questionner, on prépare à mes côtés, place à mes côtés plutôt Sophie Joubert et François Angelier. Mmh. Yann Frécy nous a mis en place une installation qui rappelle celle des studios de Radio France. Laurence Millet est à l'écoute. Normalement, elle est de l'autre côté de la vitre. Mais là, nous sommes tous ensemble. On est comme en studio. Et c'est intéressant d'avoir reconstitué une radio chez vous, Jean-Jacques Schulz, parce qu'on est tout de suite dans l'idée du faux-semblant. Alors, il y a le trompe-l'œil, il y aura ici le trompe-l'oreille pour nos auditeurs. Il y a comme un léger décalage. J'imagine qu'il n'est pas tout à fait pour vous déplaire entre la vérité et le semblant de vérité.
Oui, mais avec un très léger hiatus, toujours. J'aime bien partir sur une base de réalisme, et puis ensuite c'est le décollage qui m'intéresse. La fiction pure ou l'imagination, non. Le réalisme plat ou le réalisme tout court non plus. C'est à la lisière des deux que je respire comme il faut. Pas d'imaginaire fantasmagorique. L'imagination qui m'intéresse, c'est celle dont Baudelaire donnait la définition, en disant à peu près ceci, que l'imagination n'est pas je ne sais quelle, encore une fois, fantasmagorie, extraordinaire et tout. C'est plutôt la faculté de trouver des correspondances et des associations dans le monde et dans les choses, à travers les choses. Et là, on rentre dans une définition que je trouve très moderne de l'imagination et d'ailleurs de la littérature et de la poésie, dans laquelle les surréalistes, bien sûr, vont s'engouffrer, qui est l'idée d'association.
Alors, les choses n'étant jamais tout à fait simples avec vous, Jean-Jacques Schulz, à la question profession, vous expliquez, si l'on considère que Charles est un double de Jean-Jacques Schulz, vous écrivez, page 115, « Écrivain ne vient pas à ma bouche ni sous ma plume, je dis journaliste, ce que je suis encore moins, ou bien sans profession. C'est sans doute un respect devant le mot et ce qu'il a pu dans le passé signifier de prestigieux et à quoi je pensais ne pouvoir prétendre, mais aussi une attitude supérieure de dandy dilettante qui s'imagine préférable d'être plutôt que de faire et répugne à toute poubellication d'un écrit vain. » C'est seulement depuis peu, peut-être parce que je n'ai su être suffisamment dans la vie ce personnage que je souhaitais, et encouragé par un succès littéraire inattendu, que je parviens du bout des lèvres à répondre dans un souffle écrivain. Le succès littéraire inattendu, il faut quand même rappeler ici à nos auditeurs qu'il s'agit tout de même du prix Goncourt pour votre livre Ingrid Cavan, publié en 2000. Auparavant, il y avait eu Rose Poussière, 72, Telex numéro 1, 76. Est-ce que c'est parce que vous osez, dans un souffle, vous prétendre écrivain que vous n'avez attendu que 10 années depuis le précédent livre ?
Alors la question, il y a deux questions, il me semble, au moins, mais deux, c'est déjà bien. Une, c'est celle de l'écrivain, la deuxième, c'est celle du silence. Alors l'écrivain, je peux ajouter à ce que vous avez dit que Ce qui me gêne dans la plupart des acceptions, enfin, du mot, du mot écrivain, c'est la notion d'inspiration, de quelque chose de quasi divin, relié à un fil rouge, à je ne sais quoi. Et je préfère toujours, d'ailleurs, en liaison avec ce que l'on disait sur l'imagination, qui est plutôt un jeu d'association. J'aime bien, de façon peut-être avec un peu de coquetterie, me présenter comme ajusteur-monteur. C'est-à-dire, il y a des choses non pas que j'invente, mais que je découvre autour de moi, que je capte. Je me vois un peu comme ou j'essaye d'être un émetteur-récepteur, un peu comme un journaliste d'ailleurs ou un copiste. Et ce qui m'intéresse, c'est de découvrir. Des choses, petites ou grandes, frivoles ou non, et de les assembler, de les connecter. Ça, c'est pour l'écrivain, disons, je pourrais dire écriveur ou ajusteur-monteur. En ce qui concerne ce silence, je n'ai qu'une réponse parce que elle est un petit peu, peut-être un petit peu là encore coquette et exagérée, mais je n'ai trouvé qu'une réponse au fond. J'ai cherché moi-même, comme il y avait questionné déjà au moment d'Ingrid Cavaigne, il y avait eu, ça faisait très longtemps que je n'avais pas publié. Je me suis interrogé aussi, j'ai pas trouvé, j'ai pas trop longtemps, je n'ai pas trouvé de réponse. J'ai fini par en trouver une qui est peut-être, qui a peut-être une certaine validité, ou plutôt deux, là encore. La première, c'est que je me suis dit, j'aime bien la variété dans les livres, j'aime bien les livres qui ne sont pas trop homogènes. Disons, ça correspondrait à une musique, je prends un exemple peut-être un petit peu, je prétends pas m'aligner là-dessus, mais enfin, pour prendre un exemple qui clarifie les choses, une musique, disons, quelque chose comme Stravinsky, et non pas une musique linéaire, c'est pas, et donc un livre qui comporte en quelque sorte, si je puis dire, peut-être même plusieurs livres, plusieurs tons, plusieurs styles, plusieurs registres. Et c'est peut-être un peu prétentieux, mais même si c'est un livre de 300 pages dans le cas d'Ingrid Cavaigne, de 150 dans celui-ci, après tout, la taille ne fait rien à l'affaire. J'ai un peu la prétention de penser, tant pis, que dans ces 300 pages et 150, il y a plusieurs registres, plusieurs types d'écriture, et peut-être qu'il me fallait tous ces livres que je n'ai pas faits. Pour arriver à les. Si j'avais fait un livre tous les 2 ans, j'aurais fait un livre spécial, un livre particulier tous les 2 ans, en essayant de changer chaque fois, ce n'aurait pas été facile. En faisant un tous les 10, 15 ans ou plus, c'est un peu facile, un peu pirouette comme réponse, mais je peux dire que dans ces ans, j'ai une sorte de feuilletage de plusieurs livres. Ça, c'est une réponse qui est un petit peu une pirouette. La deuxième, qui en est une autre, de pirouette d'ailleurs, c'est que. Si tant est que mes petits livres ont une certaine résonance et on m'a crédité de cela, une petite résonance, ça le doit peut-être au silence, puisque comme vous savez, le silence en musique a une valeur à part entière et les notes ne peuvent résonner que s'il y a du silence autour. Donc je m'abrite derrière ces deux justifications, la dernière étant celle d'un silence qui donne plus de force à ce que j'écris.
Alors, pour en venir au livre lui-même, à celui-ci, Entrée des fantômes, Jean-Jacques Schoul, il faudrait effectivement dire qu'il y a deux parties dans ce roman, deux parties distinctes. Et ça m'a frappé parce qu'en vous lisant, je repensais à un livre assez récent, celui de Marine Diaye, qui avait lui-même trois parties apparemment distinctes et pourtant réunies. On lui disait, mais c'est pas vraiment un roman. Moi, il me semblait que c'était un roman. Et celui-ci, deux parties pour le coup très distinctes. On pourrait dire que l'une serait du côté d'un Jean X27 et la seconde plutôt d'un côté Visconti contemporain. On reviendra là-dessus, sur ce terme-là ou sur ces évocations-là pour donner quelques images. La première partie, Le mannequin, titre en italique, ne fait que 26 pages. La seconde, La nuit des fantômes, fait 108 pages. C'est vrai que vous avez souvent évoqué votre goût pour Bob Rauschenberg. Et vous lisant et vous écoutant à l'instant, Jean-Jacques Schultz, je me disais qu'il y avait peut-être là un combined writing à la façon dont Rauschenberg faisait ses combined paintings, qui mettait sur une même toile de la photographie, un bout de palissade, de la peinture. Est-ce qu'il y a de cela en vous? Plutôt
Oui.
que l'idée du sample dont vous avez souvent parlé, je vous sens plus proche du combined writing que du sample ou de la techno.
Oui, combined writing, je marche. Bien sûr, oui, le combined writing. Oui, bien sûr. C'est mon modèle, oui, c'est Rauschenberg. Ceci dit, vous avez dit deux parties, les trois parties de Marine Diaye, deux parties. C'est pas à proprement
Pas complètement
parler,
comparable, hein,
c'est
j'entends
deux.
bien.
Je préfère dire, je veux pas dire diptyque qui est réservé à, qui fait très prétentieux et qui est réservé à la peinture. Disons deux volets, dans la mesure où il s'agit d'une partie, comme vous l'avez très bien dit, très fictionnel. Vous avez parlé
Agent
d'Agent
X-27.
X-27 de Sternberg, on pourrait parler de
Oui,
Lynch, de David Lynch,
bien
etc.
sûr.
C'est-à-dire d'univers très fictionnalisé. Et même, j'ai poussé la fictionnalisation le plus loin possible, presque vers le cliché, etc. La deuxième, je l'ai voulu plus auto-fictionnel, bien que je n'aime pas l'école d'autofiction. Mais enfin, disons auto-fictionnel, c'est-à-dire. Documentaire plus tourné sur moi, vers moi. Je m'étais pour moi, quand j'écrivais, je m'étais donné comme pour me faire une sorte de feuille de route, deux titres pour chacune, l'une étant une espèce d'histoire et la deuxième un peu de mon histoire. Donc, en quelque sorte, l'objectif tout d'un coup se retournait sur moi et c'était les coulisses de celui qui avait écrit la première partie. Ceci dit, à mon avis, dans ce dispositif en deux volets, il y a quelque chose, je pense, d'assez intéressant dans la mesure où il y a des correspondances entre les deux. C'est-à-dire, si je peux me permettre, le mannequin qui est un peu inspiré à la fois de Kate Moss, de la réplicante de Blade Runner, d'Alice au pays des merveilles ou au pays des horreurs. Peut-être aussi, ça je parle pour les. Peut-être, c'est un peu peut-être cinéphile, mais il y a dans Ghost Dog de Jim Jarmusch, à l'arrière d'une limousine, une jeune fille ébéphrène et anorexique qui regarde un dessin animé à la télévision. J'ai pensé beaucoup à elle aussi. Donc c'est un composite de cette marge, que j'ai appelée marge, est un composite de ces références-là. Et il me semble, elle trouve un stylo, excusez-moi, je raconte un peu, mais enfin à ma
C'est bien.
manière. Après tout, je suis pas un plus mauvais lecteur qu'un autre, pas meilleur d'ailleurs non plus. Et donc, elle trouve à un moment donné un drôle de stylo, un stylo magique, qui, sur certaines intonations seulement, s'ouvre en son milieu, il y a un petit décrochage dans la laque, et on aperçoit dedans, c'est un peu inspiré de Raymond Roussel, ces histoires-là, on aperçoit dedans des images de grâce, enfin des moments de grâce du XXe siècle qui ont été conservés. Bon. Dont la dimension est très étrange, enfin, c'est tout ça est très, très curieux. C'est un stylo magique qu'elle perd à la fin. À la fin de la première partie, elle glisse, elle meurt. Et ce stylo va être retrouvé de manière un peu hallucinée, comme s'il avait cette vision dans la tête. Enfin, là, on rejoint un peu un univers surréaliste. Va être retrouvé par le narrateur, moi, Charles, ce que l'on veut, va être retrouvé à la fin de la deuxième partie. Et donc, comme si la fiction, en somme, la plus fantastique, commençait à baigner la réalité de la deuxième partie. Je vois, enfin, que j'ai voulu par là, en somme, marquer une sorte de triomphe de la fiction et de l'imaginaire sur le réel. Et à ce propos, peut-être un peu long, mais si je peux me permettre une petite digression.
Allez-y, Jean-Jacques Schoen.
Qui a trait à l'actualité, mais enfin, j'aime bien faire des digressions. Là, elle est un peu forte, elle a trait à l'actualité. Il s'agit de ce triomphe de la fiction. Alors, ces rapports entre la fiction et la réalité sont quelque chose qui n'est pas très simple. Et encore tout récemment, il y a une polémique à propos d'un tout autre de choses de toute autre importance, bien sûr, qu'un petit stylo en laque et de quelqu'un qui souffre un peu de la hanche, n'est-ce pas? Il s'agit quand même de la Shoah. Et il y a l'auteur du film La Shoah qui s'en est pris D'ailleurs, en des termes très étranges, en le traitant de petit jeune homme, comme si lui-même était un ancien combattant d'une cause très noble, certes, et se proposant de lui envoyer deux beignes et même plus. Tout cela parce que, simplement, ce petit jeune homme, dans un livre qui s'appelle Jan Karski, a écrit un troisième volet. Alors, il s'agit là également de trois volets. Et dans le troisième volet, les deux premiers étant des documents, qui sont documentés. Le troisième, il annonce la couleur en disant que c'est imaginaire et fictif. Et il présente une scène où on voit Roosevelt, Jan Karski, qui est dans la mission et d'essayer de venir au secours des Juifs d'Europe et de Pologne en particulier, qui sont, il le sait, seuls à l'époque, avec quelques-uns qui sont menacés d'Holocauste. Il s'agit de convaincre Roosevelt. Et donc, enfin, dans cette scène, Roosevelt est montré en train de regarder les jambes d'une jolie secrétaire, à côté d'une énorme soupière blanche. Donc, la scène est extrêmement fictionnalisée, ce qui, semble-t-il, n'a pas plu du tout à Landsman, qui se. Alors, il y a eu une polémique et Heinel a déclaré, contrairement à ce tribunal de l'histoire d'où parle Landsman, la littérature est un espace libre où la vérité n'existe pas. Ce que Landsman commente par « il n'est pas de phrase plus sotte, la littérature n'a affaire qu'à la vérité ». Alors, je ne voudrais pas être trop long là-dessus, mais je voudrais dire deux, trois points, deux, trois choses. Je pense que la littérature ne répond que d'elle-même, elle n'a de compte à rendre à rien, et dans tous les cas pas à une vérité. Et on peut prendre quelques exemples. Il y a l'exemple de toute cette fiction américaine qui plane de Dos Passos jusqu'à Doctorow, Mailer, qui prend des grands personnages historiques et qui les met dans des situations fictionnelles de pure fantaisie. Jean-Paul Sartre, qui a été le maître de cet alors petit jeune homme qui s'appelait Landsman. Jean-Paul Sartre dans Les Chemins de la Liberté, il y a une scène très connue, une scène célèbre, Les Chemins de la Liberté, où le président Daladier revient de Munich où il y a eu les accords avec Chamberlain. Il arrive à l'aéroport du Bourget, port militaire du Bourget. Des gens l'attendent pour l'ovationner, croyant que le pacte a permis de faire. C'est un pacte favorable aux alliés contre Hitler. Lui sait à quoi s'en tenir et Sartre lui fait dire les cons. Bon, est-ce qu'il a dit cette phrase? Est-ce qu'il ne l'a pas dite? Bon, c'est une phrase visiblement fictionnalisée complètement. On va pas aller chercher des crosses à Sartre pour ça, etc., etc. Bon, moi, je pense que la fiction a tous les droits, la fantaisie a tous les droits et ne doit répondre que d'elle-même.
Voilà une précision de Jean-Jacques Schoul qui me permet alors d'ouvrir cette discussion en précisant encore une fois que, à propos de radio, on en parlait tout à l'heure, il y a une séance de radiographie qui joue un rôle important dans votre nouveau livre, qui ouvre quasiment cette seconde partie où le médecin diagnostique votre mal qui se fixe sur votre articulation coxo-fémorale et qui vous handicape lourdement. Et c'est pourquoi nous sommes venus bien volontiers à vous aujourd'hui, Jean-Jacques Schoul. Il y a ce dialogue avec le médecin qui vous demande, vous écrivez en ce moment, oui, un peu, un roman, une sorte. Vous écrirez mieux si votre corps est en bon état, et vous répondez, je n'en suis pas sûr. Alors de fait, on peut peut-être s'interroger autour de cette table et dire qu'à l'inverse, qu'on est tout à fait certain qu'entrer des fantômes ne serait pas ce qu'il est sans ce mal qui vous frappe. D'autres l'ont relevé aussi. C'est un livre, et même dans ces deux parties, qui claudique aussi d'une certaine façon. Et ce qui frappe, on est là aussi dans un autre écho à Rauschenberg. Il y a une très belle phrase de Rauschenberg qui dit qu'il voulait travailler dans l'intervalle entre l'art et la vie. Et c'est très exactement là, je crois, que vous vous situez, Jean-Jacques Schoul. Alors, impression de lectrice et question, Sophie Joubert.
Puisqu'on parle du mal, Jean-Jacques Schoul, moi j'ai envie de vous parler du mal au sens large. Il me semble que c'est une des questions qui traverse vraiment ce livre. Alors, le mal, c'est par exemple Les Mains d'Orlac, ce livre de Maurice Renard que veut adapter Raoul Ruiz. Vous le rencontrez un jour et il vous propose de jouer dans son film. Le projet ne se fera pas, mais au fond, ça n'est pas très grave. Et puis, il y a aussi cette figure de Richard III. Un jour, vous êtes pris d'une folie, vous appelez le metteur en scène Georges Lavaux et vous lui dites « Je veux l'espace d'un soir jouer Richard III ». Alors, que représente pour vous cette figure de Richard III? Et pourquoi le mal est-il aussi présent dans ce livre, Entrée des fantômes ?
Ça fascine tout le monde, de toute façon. Et puis c'est la part obscure en chacun. Alors, je me suis amusé à essayer de voir un peu. La phrase de Ruiz a été le déclencheur de ces interrogations et donc aussi de ce livre. Puisqu'elle a effectivement, elle est vraie, elle est réelle. Et j'ai essayé de, je me suis aussitôt demandé, ça a duré, ça dure encore, qu'est-ce qu'il avait bien pu voir en moi pour me proposer un personnage aussi noir et aussi monstrueux que le chirurgien des mains d'Orlac. Et donc j'ai réfléchi à ça, et c'est au fond ce livre, quoi, ça a donné ce livre. Les grandes figures du mal, j'évoque souvent les grands boiteux. Les boiteux, la boiterie est un appendice du mal, souvent, enfin c'est un symbole, c'est représenté, on voit souvent les méchants en train de boiter. Puisqu'on parlait de cinéma, je vais vous rappeler du commissaire Quinlan à la soif du mal d'Orson Welles, qui est un salaud intégral, etc. Alors je me suis amusé à voir tous les grands boiteux de l'histoire. Il y avait Talleyrand, Diable Boiteux, qui était quelqu'un qui avait une part de mal en lui, et puis beaucoup d'autres. Et les Richard III, bien sûr, oui. Et le théâtre, alors, il y a cette part, des choses se sont rejointes, là. Parce que il y a une scène comme ça dans le livre où je dis, mais qu'est-ce qui fait que tout d'un coup je veux me montrer sur une scène, etc. Mais il y avait eu les prémices au moment de ce fameux prix où j'étais pas du tout ni fait pour ça ni habitué. Jamais j'ai voulu être acteur ni rien, mais il y a chez chacun de nous sans doute une part d'ombre, une part ignorée, enfin Dr. Jekyll et Hyde qui apparaît un moment à l'occasion de quelque chose. Et déjà ce prix Goncourt avait révélé en moi une sorte de narcissisme, alors que j'aimais pas les photos, tout d'un coup à la fin je les appelais.
Oui, vous racontez que vous sortiez plus en votre fond de teint, votre miroir et votre peigne.
Oui, j'avais un petit truc de fond de teint dans la poche, un peigne, etc. À tel point que Ingrid Cavan, qui elle est une vraie actrice et chanteuse, commençait à se poser des questions et à se demander si par hasard, ce qui se révèle d'ailleurs un petit peu de plus en plus vrai, je n'aurais pas voulu prendre sa place. À force de m'identifier à elle dans le livre pour mieux la décrire. Après tout, il y avait encore le pas ultime qui était de l'éliminer, de le mettre à sa place, et pourquoi pas d'ailleurs, au fond, de chanter. Enfin, tout était, à partir de là, on pouvait envisager des tas de choses à partir d'une base qui était vraie, quoi.
Mais il y a une vraie similitude entre l'écrivain et l'acteur, puisque vous expliquez dans le livre que vous avez besoin vraiment de jouer tous vos personnages, et vous racontez notamment cette très belle scène d'Ingrid Cavan. Elle est dans les coulisses, elle ramasse une chaîne, elle se l'enroule autour du poignet, et vous avez eu besoin, vous, de répéter encore et encore cette scène-là pour pouvoir l'écrire.
Et c'est incroyable, je précise simplement aux auditeurs que pendant que Sophie Joubert raconte ça, vous faites les gestes en même temps qu'elle le dit, Jean-Jacques Schoul.
Oui, je pourrais aussi faire le geste que je raconte dans le livre aussi, où j'ai en quelque sorte joué, interprété Fassbinder en l'écrivant, en le refaisant. Je dis de lui qu'il. Mais avant de le dire, il fallait peut-être que je le fasse comme lui. Je dis à un moment de Ingrid Cavan que Rainer Werner Fassbinder fumait en deux temps. Le premier temps, il ramassait sa cigarette au creux de sa main comme Humphrey Bogart, et ensuite il tirait dessus comme Bette Davis. Donc il enchaînait, il faisait en quelque sorte un collage en fumant, ou un sampling, comme vous voulez. Et donc j'ai fait ça en effet pour trouver la phrase. C'est-à-dire que ça vient dans le corps à peu, en faisant le geste, la phrase vient. Et donc j'ai interprété, si je puis dire, je ne suis pas dupe, j'étais pas eux, mais enfin j'ai interprété Ingrid Cavan, Fassbinder, je dis qu'Yves Saint-Laurent, ce n'était pas tellement la peine parce qu'il boitait, que déjà je boitais un peu, donc enfin, je m'amuse à dire que c'était inutile, c'était déjà là, etc. Donc en effet, je pense que lorsqu'on est vraiment dans l'écriture, je parle d'une écriture vraiment soutenue, et qu'on veut montrer des personnages, ou même des paysages d'ailleurs, ou même des choses, je pense qu'il y a une part d'acteur, à ce moment-là, il y a une part d'acteur chez l'écrivain.
Je me demandais justement, je vous donne tout de suite la parole, François Angelier, mais si interpréter Jean-Jacques Schoul, c'était pas simplement écrire, et donc être véritablement Jean-Jacques Schoul l'écrivain, mais il y a l'envie chez vous, concomitante, de la disparition et de l'apparition, c'est-à-dire à la fois jouer Richard III et à la fois disparaître. On pourrait résumer un peu rapidement en disant, en étant à la fois Philippe Solaire, c'est J.D. Salinger, l'actualité là aussi, c'est d'être dans ces deux pôles-là.
J'ai les deux tentations. J'ai les deux tentations. J'ai un narcissisme dont je me suis aperçu qu'il était assez fort. Le narcissisme actuel, d'ailleurs, je ne m'en exclus pas. Le narcissisme des gens qui veulent aller à la Stara, qui veulent être célèbres, etc. Et j'ai la postulation, enfin, j'ai l'aspiration inverse, effectivement, de ne pas être là, que les livres se fassent sans moi, que cette idée d'un livre qui se fait sans auteur, en effet, d'être absent. D'être complètement absent. Oui.
Ce qui est peut-être une sorte de comble du narcissisme. Mais enfin, ça nous pousserait peut-être assez loin. Hein ? Bon, vous n'avez pas l'air tout à fait contre cette idée. François Angelier.
Jean-Jacques Schul, bon, j'aurais proposé deux entrées, comme on dit pour les dictionnaires, à votre livre. Première entrée, c'est à propos des mains d'Orlac, puisque dans le deuxième volet, deuxième texte, Raoul Ruiz vous propose donc de jouer le chirurgien des mains d'Orlac. Alors, les mains d'Orlac, c'est un texte que moi j'adore, qui est un roman de Maurice Renard, qui raconte l'histoire d'un pianiste virtuose qui perd ses mains dans un accident, une catastrophe ferroviaire, et à qui un chirurgien greffe des mains d'assassin. Et après, ce pianiste dont les mains étaient justement là, le truchement vers la beauté et la perfection, devient le truchement vers la mort. Donc ce qui m'intéresse beaucoup, c'est cette idée, vous dites que vous êtes plus un assembleur, un monteur, vous êtes un peu comme le chirurgien des mains d'Orlac. Vous essayez de faire des assemblages monstrueux, en tout cas que la monstruosité soit la plus signifiante possible.
Donc, je ne sais pas si c'est ça.
C'est montré en même temps.
Enfin, c'est cette idée qu'il y a une espèce de grève comme ça, oui. de collage. Donc, oui. les mains d'Orlac servent un petit peu d'accès. Et puis, entrée des fantômes. Bon, alors, on connaît les expressions, entrée des artistes, entrée des fournisseurs. André Breton avait rêvé cette expression extraordinaire, entrée des médiums.
Des médiums, c'est ça.
Et moi, j'ai pensé tout de suite à entrée des médiums en voyant entrée des fantômes, puisque entrée des fantômes, ça veut dire à la fois un accès qui est réservé aux fantômes. Donc ça, c'est une chose. Et puis également, dans les opéras ou dans les pièces de théâtre, il y a les scènes, on peut dire, entrée des fantômes.
Oui, donc, j'ai pensé aussi au cirque, vous savez, entrée des gladiateurs.
Exactement.
Il y a gaieté. Voilà. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, je vous arrête une petite seconde après. À la fin, je trouve ces fantômes assez vivifiants, sinon vivants.
Oui, mais ils sont
toniques. Ce ne sont pas des fantômes écossais, sombres, avec des chaînes, sinistres. Ils ont quelque chose de tonique. Ce sont eux, d'ailleurs, parce que certains ont vu des fantômes partout. En fait, il y a trois fantômes. L'entrée des fantômes est à la fin de la deuxième partie. Il y a deux fantômes littéraires qui sont échappés en quelque sorte la nuit des pages des livres, qui sont peut-être sortis du Salon Bleu de chez Gallimard et sont allés se promener dans Paris et se sont incarnés, si je puis dire ça, d'un fantôme, enfin d'un personnage littéraire. Se sont incarnés en fantôme, si on peut dire. Des mots se sont en quelque sorte incarnés en fantôme. Ils vont se promener dans Paris et je les rencontre dans un certain état d'hallucination et de déliquescence d'ailleurs, ce qui me permet de les rencontrer, et de faiblesse. C'est là qu'on va rencontrer les fantômes. Et je rencontre donc Lafcadio, qui est un personnage de Gide, d'un livre, selon moi, sans intérêt, très mal écrit, qui s'appelle « Les caves du Vatican », mais qui est un personnage très intéressant, qui a été reconnu, qui a beaucoup intéressé, et André Breton, d'ailleurs, et Jacques Rigaud. Par ce côté dadaïste, de type qui joue au dé, qui peut faire une chose à l'inverse, par cette espèce de froideur, de dandy apatride, etc. Donc ça les a intéressés tous les deux. Il y a quelqu'un qui est également proche du surréalisme, que je rencontre celui-là dans un ascenseur. Le premier, c'était sur un pont. Le deuxième, dans un autre lieu de passage, qui est un ascenseur. C'est le Tropman du Bleu du Ciel de Bataille. Et ensuite, Jean Eustache. Ces fantômes me communiquent une force. Contrairement aux fantômes généralement admis qui, au contraire, viennent vous tirer par les pieds et vous reprocher des choses. Mais ces deux fantômes me donnent beaucoup de force. C'est peut-être pour parler, là, on revient à ce que vous disiez. Mmh. Vous me parliez de l'entrée des gladiateurs, l'entrée des fantômes, cirque, etc.
Mais l'idée, alors il y a l'entrée dramaturgique, c'est-à-dire effectivement, il y a entrée des fantômes, le fantôme arrive sur scène, et puis entrée des fantômes, entrée réservée aux fantômes. Que votre livre soit un accès pour les fantômes Dans au monde réel, c'est-à-dire qu'on trouve aussi bien effectivement Richard III, Talleyrand, Lafcadio qui est un fantôme rêvé, et puis également Jean-Pierre Rassam. Par ce livre, par cet accès, par cette entrée, tous les fantômes se pressent et reviennent.
Oui, vous pouvez le dire comme ça. Votre lecture, toutes les lectures sont légitimes. Pour ma part, lorsque je l'ai écrit, mais ça ne veut pas dire que ce soit moi qui ai raison, d'ailleurs, au bout du compte, il n'y avait encore une fois que ces trois fantômes. Le personnage de Jean Eustache et les deux fantômes littéraires. Les autres, En ce qui concerne Jean-Pierre Assab, il est en flashback et il est tellement vivant, et tellement il a une vie tellement forte. C'est un souvenir, certes, mais peut-être pas un fantôme.
Sophie Joubert ?
Il y a beaucoup de références dans ce livre, Jean-Jacques Schoul, de références littéraires. Alors, certaines avouées, d'autres plus souterraines. Moi, j'ai pensé à Kleist pour plusieurs raisons. Alors, cette affaire du stylo dont vous nous parliez tout à l'heure, stylo qui est présent dans la fiction et dans la réalité, c'est un motif utilisé par Kleist, je crois que c'est dans Le Prince de Hambourg, sous la forme d'un mouchoir.
Voilà. Catherine aussi fait appel
il
à trouve cela.
Le prince avant la bataille. Avant la bataille, fait un rêve. Il rêve d'une jeune fille et qui a un mouchoir à la main, je crois. Je me souviens exact. Et il se réveille et à son réveil, le mouchoir est à côté de lui. Il y a également, alors dans cette même ordre d'idée, il y a un conte de Borges, une histoire de Borges, qui est la première du recueil fiction qui s'appelle, excusez-moi, ça fait très pédant, enfin je connais, ça s'appelle Le Tlon. Hugbar Orbis Tertius, je suis désolé, c'est comme ça que ça s'appelle, dans laquelle il y a un monde complètement non seulement fictionnel, mais qui n'est fait que de mots, qui est recueilli dans une immense encyclopédie, où il y a tout ce qu'on veut sur ce monde-là. Et pour être très rapide, le narrateur, qui est Borges d'ailleurs, un beau jour, voit apparaître, il dit, ce fut la première apparition, je fais des ellipses très vite, et ce fut la première apparition de ce monde fantastique dans le monde réel, quelque chose qui a été répertorié dans ce monde, se retrouve, c'est-à-dire dans les bagages de la princesse, je crois, Faucigny-Lucinge, qui est en train de vider ses malles devant le narrateur, on trouve une boussole, et autour du cadre de cette boussole, il y a des lettres qui n'appartiennent qu'à ce monde-là. Première apparition, et tout de suite après, il y a l'apparition d'un petit cône, d'une lourdeur épouvantable, qu'un enfant ne pourrait pas soulever, qui sert à la fois de système de mesure et d'objet d'adoration, dans cet univers totalement fictif et qui n'est que dans des livres et qui apparaît au pied de quelqu'un. Donc c'est également la même histoire que Le Prince de Hambourg, en effet. Moi, l'histoire du stylo, je trouve en effet très, très intéressant, cette histoire-là.
Et Kleist s'est aussi laissé sur le théâtre de marionnettes. Et les marionnettes sont importantes dans Entrée des fantômes. Le mannequin, c'est un peu une marionnette, mais l'écrivain aussi.
Oui, l'écrivain devient finalement comme la boucle se boucle, c'est-à-dire le côté de David Lynch est très morbid chic, fictionnel. Dans la première partie, ce climat-là, peu à peu, baigne, en fait, comme si non seulement le stylo, mais d'autres choses, peu à peu la fiction retrouvait toute sa force, baigne la réalité de la deuxième. Mais en effet, l'écrivain, de façon un petit peu fantasmatique et incantatoire, en somme, devient lui-même mannequin et marionnette.
Bah, à propos de mannequins, là aussi, c'est des jeux de fausses pistes, me semble-t-il, Jean-Jacques Schoul. Il y a l'Afcadio, mais on pense plus à Palude, avec l'impossibilité du livre qui n'arrive pas à s'écrire et qui est raconté dans le livre, mais qui devient un livre. Enfin bon, on est quand même de ce côté-là, c'est plutôt Palude de Gide, mais en même temps, mannequin, moi je l'entends comme le modèle bressonien, c'est-à-dire surface de projection possible d'une entité finalement assez vide, mais qui a du coup valeur d'icône.
D'accord, mais le modèle bressonien, je fais passer Dominique Sanda d'ailleurs très vite à un moment donné, dans le livre à propos de Bresson, le modèle bressonien, je trouve, était assez proche au fond de la marionnette telle que je rappelle rapidement la définition de Kleist, en la trouvant encore un tout petit peu plus vite. La grâce se trouve de la façon la plus exemplaire ou la plus forte dans le mannequin et dans le dieu. Un par excès de conscience, l'autre par pas de conscience du tout. Donc là, je trouve que c'est assez proche de Bresson aussi.
François Angelier ?
J'aimerais qu'on parle de la rue Saint-Roch.
Volontiers.
Parce que Sam, moi aussi, j'ai été très sensible à ça. C'est votre côté rétif de la Bretonne, personnage de la nuit, tableau de la nuit parisienne. Ouais. Et cette rue Saint-Roch, elle est bien parce que c'est la rue qu'on imaginerait la moins romanesque de Paris. C'est une rue à écarter, c'est une rue sombre, encaissée, où vous avez une espèce d'antre, un peu de caverne aux merveilles, chez votre ami le restaurateur asiatique. Et pourquoi c'est cette rue, j'imagine que vous l'avez choisie pour des circonstances biographiques précises, et en même temps, elle dit beaucoup sur tout un rapport à la ville, surréaliste et romantique.
C'est-à-dire, je suis si romanesque. j'ai vu des choses dans cette rue. Je suis si romanesque et facilement halluciné, sans substance. J'ai vu des choses dans cette rue, avec le tocsin de l'église, enfin le carillon de l'église, les cloches de l'église. À certaines heures, j'y ai vu d'autres villes, j'y ai projeté d'autres villes, justement peut-être parce qu'elle n'a rien d'extraordinaire. De même que le restaurant du petit chinois lettré d'Avé, qui maintenant est rue de Richelieu, pub gratuite. Son restaurant, de la rue Saint-Roch, je le dis, qui était banal, pas grand-chose. C'est là où on peut le mieux projeter. C'est pour ça, c'est pas la peine d'imaginer des choses extraordinaires, ça, on projette beaucoup mieux là-dedans. Et le romanesque, souvent, s'accommode bien d'endroits banals. Et la rue Saint-Roch, oui. Et puis ce périmètre, alors, puisque les surréalistes ont souvent parlé de tropisme dans Paris, la Tour Saint-Jacques, je ne sais quoi, enfin, ils avaient leur tropisme et leur périmètre, toujours qui étaient des points de polarisation ou d'aimantation. Et il y a le lieu de Paris qui est d'ailleurs finalement un grand centre historique ancien. C'est ce qui est limité, disons, par les Tuileries, la rue de Castiglione, la rue Saint-Roch, actuellement l'hôtel Coste, qui snobisme ou pas snobisme, ça m'est égal qu'on m'accuse de snobisme, est un lieu que je trouve intéressant. Donc tout ça, là, tout rayonne en effet par là.
Pour finir, Sophie Joumer.
Oui, il y a une scène qui m'a beaucoup frappée dans ce livre. C'est au début, dans la première partie, le mannequin Marge est dans une voiture. Elle ouvre son téléphone portable et elle essaie d'écrire un SMS. Et là, un texte apparaît. Au fond, c'est comme un livre qui s'écrirait tout seul. Et je me demandais, Jean-Jacques Schul, quel était votre rapport aux machines, à la technologie, et si vous aviez ce fantasme du livre comme ça, qui aurait sa vie propre.
Oui, c'est très ambigu. J'écris avec un crayon sur du papier A4. Je suis très low-tech. Je refuse, j'ai une sorte de refus de la technologie, je m'en méfie beaucoup. D'un autre côté, oui, j'ai ce fantasme d'un livre qui s'écrirait tout seul. En ce qui concerne ce téléphone où fourmille tout d'un coup des tas de mots, et où je dis que les mots semblent avoir leur propre vie tout d'un coup, et même échapper aux hommes, je pense que c'était assez symptomatique d'aujourd'hui, non seulement de la technique, mais de beaucoup de choses. Je dis les mots, on pourrait dire l'argent, on a l'impression que tout... enfin, qui tire les ficelles ? Dieu, les hommes, non, Dieu, non, le diable même pas, ça marche tout seul. C'est cette impression que j'ai. C'est une impression très forte que j'ai. J'ai ce sentiment dans la société, dans le monde actuel, que tout ça se déroule tout seul, ça échappe même à notre... ça a été fabriqué par nous, comme Frankenstein, puisque Frankenstein est aussi dans ce livre. Mais donc, comme la créature de Frankenstein, tout ça a été fabriqué par nous, et puis ça prend une dimension autonome, et ça marche tout seul, de façon assez... Alors là, on rentre effectivement dans le vrai fantastique, là, alors dans un fantastique très inquiétant. L'argent, le langage, les rapports entre les gens semblent se dérouler sans nous.
Alors pour tout à fait finir, Jean-Jacques Schul, dire que cette première partie de « Entrer les fantômes », elle s'interrompt en plein milieu d'une phrase avec de nombreux points de suspension, qu'à la question du chinois « Tu écris quand ?» la nuit, l'auteur répond « Oui, la nuit, j'écris un peu, la fin, j'ai la fin ». Sauf que la fin, c'est un cri, c'est encore trois points de suspension. Est-ce qu'il faudrait écrire à suivre, Jean-Jacques Schul ?
Non, j'ai la fin. Oui, j'ai la fin, c'est trois points de suspension.
C'est un cri, c'est « Ah !» trois points.
Non, « Ah !» « Ah !» je vais écrire. C'est-à-dire, le stylo, c'est un stylo. J'ai trouvé le stylo du mannequin de la fille, sur laquelle je fantasmais d'ailleurs. Il lui a échappé, elle est morte, c'est moi qui le retrouve aux objets trouvés. Tout d'un coup, je suis dans la voiture, après avoir triomphé grâce au fantôme, j'ai raflé dans la maison de jeu l'argent, la fille que j'ai montée en haut, et toujours ce stylo, et il semble, non seulement l'argent et la fille, mais il semble que peut-être je vais écrire. Ça, c'est les trois points de suspension.